chapitre 5. Maxime a des fiches pour les ados et les jeunes. Nous voyons vraiment en phase avec ce que nous avons vu pendant l'étude biblique tout à l'heure. Une étude très riche qui nous a bénis, au moins en tout cas. Mais Jésus parle dans ce sermon et il dit au verset 5, c'est sa troisième déclaration de bonheur. Et il dit au verset 5, heureux les, si vous avez ma traduction, vous avez le mot débonnaire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ça tombe bien, ça rime. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Sinon, vous avez dans votre traduction peut-être heureux ceux qui sont quoi ? Quelle est votre traduction ? Doux. Heureux ceux qui sont doux. C'est une traduction française qui dit heureux ceux qui sont humbles et doux. Et le mot débonnaire, c'est un adjectif. Ça parle d'une personne, c'est quelqu'un qui se caractérise par une grande bonté, une tendance à se montrer favorable et secourable à autrui. C'est un quasi synonyme de bienveillant, bon ou généreux. Alors je vous demande d'imaginer un peu le temps de Jésus. En Luc 6, ne cherchez pas, mais nous trouvons une liste des 10 apôtres. Et le 10e dans la liste est quelqu'un qui s'appelle Simon. Et Simon est connu par son appartenance politique. Et on l'appelait souvent Simon le quoi ? Le zélote. Le zélote. Alors, qu'est-ce que c'est un zélote ? Eh bien, les zélotes, ou zélé, cette idée de zélé, qui vient d'un mot hébreu qui voulait dire jaloux, parce que Dieu est un Dieu jaloux, l'Ancien Testament nous dit, et ils sont à l'origine d'un mouvement politique religieux du 1er siècle dans le judaïsme, du Second Temple, qui vraiment incitait le peuple de Judée à se rebeller contre l'Empire romain et expulser par la force les soldats romains. Ils étaient appelés aussi les Galiléens. Et ils se sont révoltés initialement contre le recensement, et ça je trouve intéressant, de Quirinius. Vous vous rappelez, ça c'est à l'époque de la naissance de Jésus. Et Dieu utilise pour qu'il soit né à Bethléem, et ça crée une révolte parmi le peuple juif. Et les Zélotes, comme beaucoup de leurs compatriotes, ils savaient que Dieu leur avait promis la terre. Et pourtant, ils étaient convaincus que la seule façon d'avoir la terre, c'était d'utiliser la force, les poignards, les armes et la guerre. Et ils sont venus à un point où ils se résistaient même et tuaient d'autres juifs qui les repoussaient ou les rejetaient, ou leurs idées. Aujourd'hui, on appelle ça le terrorisme. Et c'est bien la même chose. Et pour eux, si c'est sur le plan national, c'est le terrorisme, c'est la guerre. Si c'est le plan individuel, c'est la crime, l'abus qui se fait dans les relations, etc. Mais selon ces personnes, c'est les plus forts qui quoi ? C'est les plus forts qui gagnent, n'est-ce pas ? Seuls ceux qui insistent sur leurs droits les reçoivent. Pour eux, c'est l'impertinence, l'insistance, l'inflexibilité, l'autodéfense, le bagarreur, la femme qui défend ses droits, l'homme qui est agressif, qui ne mâche pas les mots. Voici les seuls qui obtiendront leur but. et leurs objectifs. Voici les seuls qui obtiendront ce qu'ils méritent. Et de l'autre côté, si vous n'insistez pas sur vos droits dans ce monde, vous ne les obtiendrez pas. Parce que ce sont ceux qui poussent qui avancent. Ce sont les gens qui insistent qui reçoivent. Et si vous espérez à quelque chose dans la vie, même les enfants peuvent s'identifier à ça, parce que ça commence très très tôt. Il ne faut que deux enfants. Ensemble. Et tout de suite, la mentalité, c'est si je veux avancer dans la vie, je dois être prêt à me battre, bec et ongles, comme on dit, pour recevoir ce que je veux, sinon vous avez perdu d'avance. Alors considérez un peu le monde autour de nous. Qui sont ceux qui ont réussi? Ce sont normalement ce genre de personnes. C'est presque comme si on pouvait dire, c'est l'arrogant, c'est l'autoritaire, c'est le hautain, c'est le puissant qui héritera la terre. Alors, quelle surprise quand on ouvre nos Bibles et on entend Jésus dire cette troisième proclamation de bonheur en Matthieu 5, verset 5. Heureux les doux, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors, nous allons parler donc de cette douceur. J'utilise le mot douceur. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Et puis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être doux? Et d'abord, qu'est-ce que c'est la douceur selon Jésus? Qu'est-ce que c'est la douceur? Eh bien, elle a une source. Elle a une source. Et la douceur, ce qu'il faut comprendre, n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas une question de tempérament. Parfois, on dit, bon, cette personne est douce. Elle est naturellement tendre. Et c'est vrai que certaines personnes sont naturellement décontractées, faciles à vivre, agréables. Mais est-ce que ça a vraiment de valeur devant Dieu? Parce qu'il y a des chiens comme ça aussi, n'est-ce pas? Des chiens qui sont plus doux et plus calmes que d'autres chiens. Et donc le fait que ce n'est pas basé sur le tempérament naturel, c'est important parce que ça nous permet d'éviter d'un côté l'orgueil, et de l'autre côté, le désespoir. Parce que d'un côté, on ne peut pas être fier, on ne peut pas dire, bon, c'est tout simplement moi. Hein? Vous dites doux et j'ai cru que vous appelez mon nom. Mais je suis comme ça, je ne comprends pas que vous n'êtes pas comme moi. Mais de l'autre côté, on ne peut pas jeter l'éponge et dire, c'est pas moi. Et moi, vous savez, moi, j'appelle un chat, moi je dis ça, moi je suis plutôt direct, vous savez, ça c'est moi. Et si vous voulez être mon ami, ben, il faut que vous vous habituez à moi. Parce que moi, je suis comme ça et je vais rester comme ça toute ma vie. Alors, quelle est la source donc, de cette douceur? Eh bien, la source, selon Galates 5, 22, nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, et nous retrouvons notre mot maintenant, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, la source de cette douceur, de toute sainteté vraiment, de la vie, de la sanctification et la régénération par le Saint-Esprit, c'est la présence de l'Esprit-Saint dans mon âme, dans mon cœur. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et c'est une distinction très simple entre la racine et le fruit. Il faut faire cette distinction. Qui dans son bon sens, même les enfants, je veux dire, qui va sortir et va prendre une tomate, il va l'attacher à un arbre, et il va mettre de l'eau sur la tomate, et puis il va s'attendre à que la tomate produise une vigne qui entre puis dans la terre et produit des racines. C'est stupide ça, n'est-ce pas? Les racines viennent d'abord, puis la vigne, et puis le fruit. Et c'est la même chose avec toutes ces béatitudes. Il faut l'esprit est la racine, si vous voulez, qui produit ces choses en nous. Il faut une nouvelle vie qui précède toutes ces béatitudes énumérées dans notre texte. Et nous lisons un livre certain de John Owen sur le péché. Et il dit ceci, il dit quand les Juifs, convaincus de leur péché, eurent leur cœur vivement touché, il parle de acte 2, quand Pierre a prêché, ils disent, et ils s'écrièrent, que ferons-nous? Alors ils posent la question, que Pierre leur enjoigne-t-il de faire? Leur ordonna-t-il de mettre à mort leur orgueil, leur colère, leur malice, leur cruauté, ces choses semblables? Parce qu'il dit, il faut être plus doux, il faut être plus humble, il faut aimer votre voisin comme vous, votre prochain comme vous-même. Non, ils savaient que ce n'était pas leur travail à ce stade, mais il les appela à la conversion et à la foi en Christ en général. Il a dit, repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Et donc les béatitudes sont le produit de la vie spirituelle. Ils ne sont pas le producteur de cette vie spirituelle. Dieu doit mettre son Saint-Esprit en nous avant que nous puissions mettre à l'œuvre les fruits de l'Esprit-Saint dans nos vies. Et donc, les béatitudes, si on les prend vraiment ensemble, ils deviennent la preuve, non pas de la capacité humaine, ce que je suis capable de faire, ils deviennent la preuve de la grâce divine. Ils deviennent comme un catalogue de grâce en pluriel, de ce que le Saint-Esprit peut faire en moi. Et donc, si vous êtes croyant, si vous êtes en Christ, si vous avez l'Esprit, vous avez... L'encouragement, c'est que vous avez les racines, vous avez le fondement sur lequel toutes ces béatitudes peuvent se développer. Et on peut dire, bon, être doux, ce n'est pas mon truc. Eh bien, qu'importe. Parce que c'est, excusez-moi de dire comme ça, c'est le truc du Saint-Esprit. C'est lui qui le produit en nous. C'est la source, donc, de cette douceur. Un autre prédicateur a dit que la Bible ne pousse jamais l'homme à creuser profondément en lui-même pour trouver les ressources dont il a besoin pour être le genre de personne que Dieu veut qu'il soit. Au contraire, elle, la Bible lui dit que quelle que soit la profondeur à laquelle il creuse, il ne trouvera en lui-même que la corruption spirituelle. C'est ça la différence même avec, par exemple, le yoga, etc., qui vous encourage à chercher en vous-même une force. Vous avez une force, il faut la trouver. C'est un peu la philosophie humaine. Mais ce n'est pas une philosophie biblique. Non, il n'y a que la corruption en moi. Je cherche ailleurs pour cette douceur. Et donc, l'application est facile. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Si vous sentez ce besoin, même si vous êtes chrétien, vous devez venir d'abord à Jésus. Vous ne pouvez pas dire, on va être plus doux, plus doux, plus doux. Non, il faut passer par Christ, car Christ est la source par son Saint-Esprit. Alors, quel est donc le caractère de cette douceur? Eh bien, il faut surtout ne pas confondre ce qu'on pourrait faire, dans un premier temps, à la faiblesse. Quelqu'un qui est doux, c'est, je pense pas, il n'est pas très stable, il n'est pas très ferme. Quelqu'un qui est fort et rigide et souvent quelqu'un qui tape fort aussi de ses poings. Mais la preuve que ça ne peut pas être confondu à la faiblesse est que Matthieu, ne cherchez pas, on va le voir plus tard, mais Matthieu 21, verset 5, parle d'un très grand roi, je vous laisse deviner qui est ce roi, mais un très grand roi qui est plein de cette douceur. Donc, être doux n'est pas être faible, parce qu'on peut être un grand roi plein de force et en même temps plein de douceur. Et une autre preuve, c'est en Galates 6, où ça attribue cette douceur à un homme qui est spirituellement mûr et capable de redresser quelqu'un qui est tombé. Donc il a une certaine force spirituelle et dit, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc on peut être spirituellement mûr dans le Seigneur et avoir cette douceur. Et je cherchais hier à voir, comprendre ce mot. J'ai trouvé que très souvent, dans le Nouveau Testament, c'est lié à d'autres mots qui sont utilisés pas comme des synonymes exacts, mais dans la même famille. Et quand vous mettez douceur à côté de ces autres mots, ça nous donne un peu l'idée de ce qu'est la douceur. Je vous cite, ce n'est pas tout, hein, mais je vous cite quelques passages. Par exemple, en Matthieu 11, 29, ça parle de quelqu'un qui est doux, c'est le même mot, et humble de cœur. Bon, ces deux choses vont de pair, être doux et humble de cœur. 1 Pierre 3,4 associe ce mot à l'adjectif paisible. Un esprit doux va de pair avec un esprit paisible. 1 Corinthiens 4,22 associe ce mot à l'amour, avec amour et dans un esprit de douceur. 1 Corinthiens 10,1 associe ce mot à la bonté, la douceur et la bonté de Christ. Galates 5,22 met la douceur côte à côte avec la maîtrise de soi. Il parle de la douceur et puis tout de suite après la maîtrise de soi. 1 Pierre 3,15 l'unit avec le respect, avec douceur et respect. Colossiens 3, 12 le met avec plusieurs qualités chrétiennes. J'ai surligné les mots qui n'ont pas encore été utilisés. Il parle de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc vous voyez, ça c'est un peu l'idée de ce qu'est la douceur ici dont Jésus parle. Ce n'est pas un manque de détermination, mais une soumission délibérée de ma volonté, de mes passions, de ma personne à une autre personne. Ce n'est pas un manque de courage ou un manque de force, mais plutôt une force de caractère bien maîtrisée. Quelqu'un avec un très fort caractère, mais un caractère très bien maîtrisé aussi. Vous pouvez y prendre l'image d'un cheval. Un cheval peut être très très fort et puissant, même dans une bataille, et en même temps facilement contrôlé par son maître. Ça, c'est la douceur et la force. Ce mot était souvent utilisé pour décrire un médicament apaisant, une douce brise, ou un poulain, comme je viens de dire, qui était domestiqué, qu'on pouvait guider facilement. Alors, ce n'est pas exactement le zélote du 1er siècle, n'est-ce pas? Ni le zélote ou le zélé du 21e siècle. Et nous devons apprendre que le zèle humain ne peut jamais accomplir des buts spirituels. Et même le roi des rois, je vous ai parlé d'un roi, c'était Jésus. Il est entré à Jérusalem, Matthieu 21, 5 nous dit, « Voici ton roi vient à toi plein de quoi ? Plein de douceur et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une âne. » Alors, si c'est ainsi que Jésus est entré en ville, plein de douceur, nous ne devons pas penser que nous pouvons entrer en ville sur un cheval de bataille, avec un pistolet à la main, comme un cow-boy. Ah, j'arrive en ville. Nous savons que Jésus reviendra un jour pour juger. Quand il revient, il viendra comme juge. Mais quand il est venu la première fois pour sauver, pour chercher ceux qui étaient perdus, il est venu plein de douceur et nous devons faire la même chose. Voici donc le caractère de la douceur. Ce n'est pas un manque de détermination, mais c'est une maîtrise de soi qui permet de se soumettre et de supporter patiemment, de montrer la bonté, la patience envers les autres. Alors, comment est-ce que cette douceur se manifeste? Et ma prière, c'est que c'est Dieu qui travaille en nous le vouloir et le faire. Et en voyant ces versets, en voyant la douceur dans la Bible, ma prière est que le Saint-Esprit travaille en nous le vouloir d'abord. Parce que, franchement, je regarde ma vie, je dis, je manque même le désir d'être plus doux. Et il travaille d'abord le vouloir et puis la puissance de l'être. Mais nous devons tous avoir un plus grand désir d'être doux, comme Jésus en parle. Quelles sont ces manifestations à l'égard de soi-même, des autres, et puis de Dieu? D'abord à l'égard de soi-même, 1 Timothée 6, verset 11, je vais vous lire ce verset, il dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Il dit recherche. Vous voyez, c'est quelque chose que nous devons rechercher. Nous ne pouvons pas être contentés au stade où nous sommes. Nous devons rechercher la douceur. Et en Jacques, vous avez ce verset en Jacques, chapitre 3, il dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse ?» Vous voyez ce lien avec la conduite? Cette douceur se manifeste dans ma vie par une bonne conduite, par la maîtrise de soi. Donc, une personne qui est douce, même à l'égard de soi-même, il est quelqu'un qui a une maîtrise de soi, qui recherche ce contrôle dans sa vie. Et puis à l'égard des autres, regardez en Galates chapitre 6 dans vos Bibles, Galates chapitre 6 et le premier verset, il dit: frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel. Et donc nous avons ici deux personnes, enfin un groupe de personnes, et il y a quelqu'un qui a été surpris dans une faute. Surpris en faute. Il est tombé, parce que plus tard on voit qu'il a besoin d'être redressé. Alors vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire vous n'êtes pas tombé comme lui, redressez-le. Mais avec un certain esprit. C'est un esprit de douceur. Un esprit envers la personne. Hein. Ça parle de notre esprit envers lui, notre attitude envers lui. Un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc la douceur, la bonté, si vous voulez, se reflète dans l'humilité, dans la patience vis-à-vis des autres. Il y a une certaine manière de redresser ceux qui sont tombés. Certain esprit qu'il faut montrer envers ces personnes. Et vous n'êtes pas loin, regardez en Éphésiens 4. Après Galates, vient Éphésiens. Regardez chapitre 4 dans vos Bibles et les premiers trois versets. Et encore, nous sommes dans le contexte de la famille de chrétiens. Éphésiens 4, il dit, premier verset, « Je vous exhorte, donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Verset 2, « En toute humilité. » Et puis, en quoi ?« En douceur, notre mot. » Avec patience. Et la douceur nous apporte, nous mène à faire quoi ? Vous supportant les uns les autres avec amour. C'est la douceur qui nous pousse à supporter les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, le contexte, c'est clairement notre interaction entre les uns les autres, comme il dit. Et ça doit être caractérisé par l'humilité, mais entre autres par la douceur. Nos échanges les uns avec les autres, nos mails, nos SMS, nos appels, tout doit être caractérisé par l'humilité et la douceur. Puis je vous mets ce verset en Tite, chapitre 3. Il dit encore: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Rappelle-leur de ces choses. Nous avons besoin de ce rappel là, ce matin. D'être plein de douceur envers tous les autres. Nous avons connaissance de ces expressions. J'en peux plus. J'ai ras-le-bol. J'étais patient, mais à un certain point, j'en peux plus. Non, il faut être plein de douceur envers tous les hommes. Une illustration, quand j'ai entendu très longtemps, et on en parle assez souvent dans ma maison, c'est comme un verre. Vous avez un verre, il est rempli d'un liquide, et vous secouez le verre. Vous secouez le verre, qu'est-ce qui sort du verre? Ce qui est dans le verre, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec nos vies. Quelqu'un vient et vous secoue, et ce qui sort, c'est ce qui était déjà en nous. Si c'est un manque de respect pour les parents, c'est que ça existait déjà. Si c'est la colère, c'est que ça existait déjà. Si c'est la douceur, c'est que déjà on avait travaillé avec l'aide de l'esprit, la douceur en nous. Quand on nous secoue ce qui est déjà à l'intérieur, la Bible le dit, Jésus le dit, que chaque parole sort du cœur. Écoutez ce que dit nul autre que l'apôtre Paul à nul autre que l'église de Corinthe, hein, qui s'est montrée très récalcitrante envers lui. C'est un peu comme un adolescent très rebelle envers Paul, cette église. Et il a dit au chapitre 10 de 2 Corinthiens, il a dit, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, la façon de leur parler. » Et vous savez peut-être que le zèle pour la vérité et le zèle pour la justice se mêlent très facilement à une estime de soi qui est orgueilleuse. De sorte que même quand nous pensons agir uniquement pour la vérité, souvent on est convaincu, bah, je fais ça pour la vérité. Mais nous agissons en réalité pour le bien de soi. Mais une personne orgueilleuse n'est jamais une personne douce. Je crois que certains de mes plus grands regrets en tant que ce soit pasteur, que ce soit mari, que ce soit père, c'est dans ce domaine. Alors, la douceur n'est pas la faiblesse. Jésus a chassé, vous rappelez, il a chassé les vendeurs du temple, avec un fouet même. Mais la douceur et la bonté, ce sont une soumission humble à la volonté de Dieu qui se reflète dans l'humilité et la patience envers les autres, considérant même les injures comme un moyen de discipline de la part du Seigneur. Et cette douceur ne se montre pas uniquement envers les chrétiens. On a déjà vu en titre tous les hommes, mais écoutez ce que Pierre dit en 1 Pierre 3, verset 15, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. » Comment ? Avec douceur, ça part du voisin qui est vraiment très embêtant. Du collègue qui essaye de vous écraser pour qu'il puisse avoir votre place. Soyez prêts, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect. Parfois on dit, bon, il faut se préparer à me défendre, il faut que j'ai des arguments. Peut-être c'est ça, hein, comme ça qu'il faut se préparer. Ou peut-être il faut se préparer en travaillant la douceur et le respect. Pour que quand je me défends, ça soit avec la douceur et le respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et puis, il y a une manifestation aussi à l'égard de Dieu. Il y a un homme qui a travaillé ce mot dans la Bible et il a dit, ce mot est en fait est plus souvent utilisé par rapport à notre attitude de soumission et de confiance à l'égard de Dieu. Donc c'est d'abord une vertu verticale plus que horizontale. Et cette béatitude que nous trouvons en Matthieu 5:5 est en fait une citation de l'Ancien Testament. Peut-être que vous l'avez marqué dans vos Bibles. C'est marqué, il y a des lettres et puis une référence. Sinon, vous pouvez marquer le psaume 37:11 à côté de Matthieu 5:5. Le psaume 37:11. Et après l'avoir marqué, je vous invite à trouver ce psaume. Psaume 37 et verset 11. Dans l'eau seconde, il dit « Les misérables possèdent le pays. » Mais dans la traduction grecque qu'utilisait à l'époque le Seigneur, ce sont les mêmes deux mots qui sont utilisés par Matthieu. Les misérables pour les doux, possède, c'est le mot hériter. On peut dire donc les doux héritent le pays. La Bible de Semeur dit, mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession. Mais la question c'est qui sont ces doux ou ces misérables, pas dans le sens qu'ils sont pas contents, mais dans le sens qu'ils sont humbles devant le Seigneur. Eh bien, regardez le verset 3. Le psaume 37, verset 3 dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Regardez le verset 4. Ça dit « Fais de l'Éternel quoi ?» C'est des listes. Hein, on pense au psaume 1 là. Regardez le verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel. » Ça c'est l'idée de « Remets ton avenir à l'Éternel. » Le sort par rapport à l'avenir. « Remets ton avenir à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. » Regardez le verset 7. Garde le silence de l'Éternel et quoi ? Espère en lui. Et ça, il décrit maintenant cette personne, appelée douce ou misérables au verset 11, ce sont des personnes qui ont une certaine relation avec l'Éternel. Donc, après avoir dit que ces personnes se confient en l'Éternel, ces personnes font de l'Éternel leur délice, ces personnes remettent leur avenir à l'Éternel, y mettent en lui leur confiance, ces personnes s'humilient devant l'Éternel, ces personnes espèrent en lui. Il dit, ces personnes débonnaires, ces doux, ces humbles, ils auront le pays en possession. Ils ont une certaine relation avec Dieu. Et cette manifestation de douceur à l'égard de Dieu est très claire en Jacques chapitre 1. Je vous demande encore de tourner, que nous regardons un thème plutôt qu'un passage biblique. Mais en Jacques chapitre 1, je vais commencer à lire au verset 19 pendant que vous le cherchez. Il dit Jacques 1:19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Donc nous ne sommes pas dans le domaine de la colère humaine. Mais plutôt, verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, notez cette phrase alors. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole de Dieu. On ouvre la Bible, où la parole de Dieu est prêchée ou enseignée. Nous devons la recevoir comment ? Avec un œil critique ? Avec douceur. Qu'est-ce que ça veut dire, recevoir la parole avec douceur ? Eh bien, c'est humblement. C'est la soumission devant Dieu. C'est une attitude d'humilité et de soumission vers Dieu et sa parole. Je crois qu'on pourrait combiner ces trois manifestations dans une seule définition qui parle de Dieu, les autres et puis de soi-même. Et dire que la douceur, c'est un esprit soumis et humble envers Dieu. C'est là où ça commence. Un esprit soumis et humble envers Dieu qui se manifeste par la bonté, pour ne pas réutiliser le même mot douceur, par la bonté envers les autres et le contrôle de soi. Quelqu'un qui se donne à des passions n'est pas une personne douce. Alors sommes-nous doux? Voulons-nous être doux? Ce serait bien d'avoir des exemples, n'est-ce pas, de cela? Des exemples de la douceur. Et dans l'Ancien Testament, le meilleur exemple est Moïse. Ne cherchez pas, mais vous connaissez peut-être Nombre 12, verset 3, qui dit que Moïse était un homme très, quoi, très humble. Et c'est le mot utilisé dans la Septante, cette version encore grecque, utilisé au temps de Jésus, c'est le même mot que Jésus utilise. En fait, c'est sa première fois qu'on la trouve dans la Bible. Il dit que Moïse était très ça. Il était très doux, très humble. Et après, il dit plus que tout autre homme sur la terre. Alors là, nous voyons encore que ce n'est pas la faiblesse, parce que Moïse était quand même un homme fort, un homme intelligent, un homme qui a dirigé toute une nation. Mais là, dans cette histoire, il est insulté par qui? Vous vous rappelez? C'est qui vient vers lui pour l'insulter? Vous vous rappelez pas? Il faudra que vous le lisiez plus tard. C'est des gens de sa propre famille. C'est sa sœur et son frère. Alors si vous êtes jeune et vous vivez encore avec des sœurs et des frères, vous savez que le plus dur, l'endroit le plus dur de garder sa langue, de ne pas répondre, c'est avec nos frères et sœurs. Parfois, à l'étranger, bon, il dit quelque chose, on ne va rien dire. Mais si c'est mon frère, je vais tout dire. Tout ce qui me vient à l'esprit, je vais le dire. Et là, le grand frère, le petit frère devant son grand frère et sa grande sœur, il ne répond pas. et laisse Dieu agir. Ça, c'est la douceur. Ça, c'est la douceur. Et moi, je trouve très encourageant le fait que Moïse n'était pas naturellement doux, vous savez. C'est pas naturel pour lui. Comment a-t-il répondu la première fois qu'il a vu une injustice faite à son peuple et il s'est trouvé dans une situation capable de le venger? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué la personne. Sur le coup, hein, c'était pas prémédité, il se met en colère, il tue la personne et puis il essaie de cacher la chose et ça ne marche pas. Il va littéralement prendre en main les choses, il va assassiner l'Égyptien, il va tuer le gars. Alors, est-ce que vous appelez ça doux? Est-ce que ça c'est doux? Certainement pas. Mais Dieu a travaillé cet homme. Il l'a mis dans l'université du désert pendant 40 ans. Et à la fin, car il peut dire de Moïse, il est le plus doux de tous les hommes sur la terre. Voici ce que le Saint-Esprit peut faire avec nous. Alors, ça a pris 40 ans, c'est pas du jour au lendemain. Mais il peut travailler ces mêmes choses en nous. Si Dieu peut faire d'un meurtrier le plus doux et patient du monde, il peut faire le même travail en nous. Mais bien sûr, l'exemple suprême, c'est qui? C'est Jésus, notre Sauveur. Et je vous lis 1 Pierre 2:23 qui dit que Jésus injuriait, 1 Pierre 2:23, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il a fait comme Moïse, mais d'une façon beaucoup plus grande et majestueuse. Alors, pour terminer, nous avons donc ces exemples, ces manifestations. Nous savons où est la source. Qu'est-ce qui est promis à ceux qui sont doux? Il dit qu'ils hériteront la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, hériter la terre? J'ai cherché ce mot et Jésus utilise plusieurs fois le mot hériter, mais à chaque fois, à part celui-là, il parle d'hériter la vie éternelle, ou hériter le royaume de Dieu, ou simplement hériter le royaume. Et vous rappelez que la douceur est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Mais juste avant, je vais vous lire, juste avant qu'il parle de ces fruits de l'esprit, il donne les fruits de la chair. Et il dit à la fin, c'est en Galates 5, 21, il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ils font le fruit de la chair, ils n'hériteront pas, et c'est le même mot, mais négatif, ils n'hériteront pas, quoi, vous savez? Le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour et, entre autres, la douceur. L'implication est que ceux qui ont le fruit de l'esprit hériteront quoi? Ils hériteront le royaume de Dieu. Donc, on a ces deux choses. On a le Saint-Esprit qui nous dit en Galates, ceux qui ont la douceur hériteront le royaume de Dieu. Et Jésus dit que ceux qui sont doux hériteront la terre. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux choses? Le royaume de Dieu, la vie éternelle d'un côté, la terre de l'autre. Et je pense, hein, c'est ma pensée, que la réponse se trouve dans la promesse que donne la Bible. Par exemple, en 2 Pierre 3:13, il parle de cette terre terrestre et dit, mais nous attendons cela, sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce sera le royaume de Dieu, mais ce sera aussi une nouvelle terre. Et nous arrivons à la fin de la Bible, en Apocalypse 21. Et Jean nous dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Nous sommes promis une nouvelle terre, ou une terre renouvelée, si vous voulez. C'est en fait la même terre où nous habitons maintenant, mais complètement rénovée, détruite par le feu pour être refaite à nouveau, pour avoir, si vous voulez, peau neuve. Et ça sera le ciel pour nous, éternel. Alors la question qu'il faut se poser, c'est voulez-vous hériter une terre qui sera détruite, comme nous voyons dans le monde, ceux qui se bagarrent, se poussent pour hériter une terre qui sera détruite? Voulez-vous hériter la nouvelle terre où la justice habitera éternellement? Si vous voulez hériter cette nouvelle terre, la Bible dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Prions le Seigneur.